Donc, on va commencer par, avant de parler de ce livre de Jane Jacobs, commencer par parler de nous, modestement. Donc, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Daniel Mandouze, qui est donc sociologue et urbaniste, et qui est un sociologue de terrain, un sociologue praticien qui intervient beaucoup dans des études, dans des projets d'urbanisme, et aussi avec qui, moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler professionnellement, et puis à l'école d'architecture, dans des enseignements. Et on s'est suivi depuis de nombreuses années, donc c'est pour ça que j'ai demandé de venir parler avec moi de Jane Jacobs.
Mais je te remercie de m'avoir fait confiance pour ça. C'est vrai qu'on a quand même un parcours commun, enfin, qui se croise beaucoup et qui est une manière de dire que faire de la sociologie urbaine ou faire de l'urbanisme, c'est parfois un travail de conviction et d'engagement. Enfin, en tout cas, on partage un certain nombre de valeurs par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on relit, parce qu'on relit Jane Jacobs, tout le monde a lu Jane Jacobs, on relit Jane Jacobs, on s'aperçoit quand même que tout le référentiel avec lequel on a l'habitude de travailler depuis pas mal d'années est en filigrane et écrit dans cet ouvrage qui date maintenant de 50 ans. Donc, moi, je pense que tout le monde connaît Claire Parrain, mais je vais quand même peut-être te représenter, enfin, ou tu vas te présenter un petit peu. Donc, Claire Parrain est architecte urbaniste, enseignant et chercheur, ce qui fait un ensemble de qualités diverses. Ce qui est intéressant dans la présentation de ce livre par la personne qui a traduit, c'est que c'est quand même ton itinéraire qui t'a fait rencontrer Jane Jacobs, à la fois sur le plan des idées, sur le plan du contenu, mais aussi la personne elle-même, quoi. Donc, je sais pas, tu nous donnes peut-être quelques repères là, par rapport à ton parcours américain et ta rencontre avec à la fois l'œuvre et l'auteur.
Alors oui, bon, moi je suis architecte, j'ai fait des études à Paris dans les années, fin des années 60, début des années 70, et puis je suis partie aux États-Unis faire des études complémentaires dans une discipline qu'on appelait l'urban design, c'est-à-dire un peu entre l'architecture et l'urbanisme. On faisait un double master en architecture, en urbanisme, et c'était un foyer extrêmement intéressant de réflexion. C'était l'Université de Pennsylvanie qui était bouillonnante de débats, de rencontres, extrêmement cosmopolite, et ça a été deux années très formatrices. Et ces années, j'ai découvert à cette occasion Jane Jacobs, qui était à l'époque, donc elle avait écrit ce livre « The Death and Life of Great American Cities », paru en 61. Là, on était en 75. Mais ce qui me frappait, c'est que ce livre était dans toutes les disciplines, on l'évoquait en économie, en architecture, en sociologie. C'était une référence un peu transversale. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est qu'elle parlait, on va en parler, de la ville d'une façon vraiment un peu à bras-le-corps. Elle prenait les enjeux, les vrais enjeux, je dirais. On était dans... frappée. Moi, j'étais frappée en tant qu'Européenne par la violence qui était partout dans l'environnement urbain. Il y avait cette histoire de ghetto qui était encore extrêmement présente. Donc, Jane Jacobs était, vraiment engagée sur des enjeux extrêmement, extrêmement forts. Et en même temps, avec une reconnaissance à la fois... au niveau, je dirais, du grand public, parce que son livre qui était paru là en 61 avait eu un énorme retentissement. Ça avait fait un livre de poche. Il y avait eu des centaines de milliers d'exemplaires. Ça avait touché un très grand public. Et en même temps, elle avait été reconnue un peu par le sérail, je dirais, académique, puisque beaucoup de gens s'intéressaient à ce qu'elle disait, y compris donc des spécialistes, des experts. Voilà. Alors moi, il se trouve que j'avais eu l'occasion, en terminant mes études, de travailler aussi, comme on appelait à l'époque, on croyait, il y avait beaucoup, beaucoup d'utopie qui circulait, c'était les années 70, comme advocacy planner, c'est-à-dire urbaniste avocate d'une communauté du sud de Philadelphie, South Philadelphia, qui est très dure, qui est un quartier noir, qui était extrêmement fermé, et donc j'y avais travaillé. Et j'étais donc très, très intéressée à la fois par le sujet, par la personne et par cette façon de travailler transversalement et d'avoir cet écho à la fois avec ce qu'on appelle les gens. On ne sait jamais trop, on dit toujours les gens pensent, les gens habitent, les gens veulent. Mais voilà, qui sont les gens? Et il y avait cette façon de travailler vraiment au plus près. Alors, c'est vrai que cette question m'a suivie et que quand je suis rentrée en France... J'ai travaillé enfin, dans diverses, enfin, en Tunisie, puis j'ai travaillé à Bordeaux et dans la région pendant de longues années. Et bien, c'est, toutes ces idées m'ont beaucoup aidée, parce que c'était un peu un centre, enfin quelque chose qui me... un ancrage, je dirais. Et à l'école de Bordeaux, quand j'ai commencé à enseigner, il y a maintenant bien longtemps, fin des années 80, on m'a confié au départ un cours sur usage et architecture. Et immédiatement, j'ai pensé à Jane Jacobs, pour les raisons dont je viens de parler, qu'on va développer. Et donc, j'étais amenée à traduire des petits morceaux, parce que j'ai découvert que ce livre, paru en 61 aux États-Unis, traduit dans je ne sais combien de langues, qui avait été un best-seller et qui en faisait peut-être le livre le plus connu, on dirait, aujourd'hui, dans le monde, sur la ville, n'avait pas été traduit en français. Alors après, c'était une longue histoire pour comprendre pourquoi, mais j'ai commencé à traduire des petits morceaux pour les cours, et puis progressivement, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité, avec Pierre Mardaga, qui était donc un éditeur à Liège, de proposer une première édition en français. C'était en 91, en 92, et première présentation chez Mola, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais le livre restait extrêmement confidentiel, et c'était un livre de référence. C'était d'ailleurs comme ça, à ce titre, que je l'avais traduit, me disant que c'est la pensée, finalement, qui est ignorée de tout un pan de réflexion américaine. Bon. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ce livre avait eu beaucoup d'écho. On m'a souvent demandé, mais comment ça se fait? Il était épuisé à la bibliothèque, il n'était jamais là. Et il y a quelque temps, il y a 2 ans à peu près, parenthèse, m'a contacté en me disant, écoutez, voilà, Mardaga ne renouvelle pas, il y a eu une succession. Voilà, on voudrait le rééditer, alors on repart ensemble. Donc, j'ai été amenée à revoir la traduction, à refaire une préface, et puis surtout... actualiser un peu ces idées par rapport à tout ce temps, 20 ans d'écart, et avoir aussi à réfléchir à la façon dont, en France, aujourd'hui, curieusement, il y a un écho beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'en parler aujourd'hui, peut-être pour voir de quelle nature est cet écho.
Alors, entre-temps, quand même, ce que tu dis pas, c'est que tu avais été le rencontrer.
Oui.
À la fin des années 90 à Toronto, oui. Pour une espèce de mise à jour de la réflexion, oui. De confrontation avec le réel d'aujourd'hui. Tu avais publié aussi quelque chose qui avait permis peut-être de faire le relais avec la problématique actuelle par rapport à un bouquin qui était écrit 30 ans avant à l'époque.
Tout à fait. Alors, effectivement, quand elle a écrit le livre, et puis par la suite, elle a écrit plusieurs ouvrages qui ont eu moins de retentissement, plutôt en économie, parce qu'elle s'est un peu improvisée. C'est une espèce d'autodidacte, un peu, je dirais, intuitive, mais en même temps très cultivée, très ouverte, et finalement avec une pensée très, très articulée. Et donc, elle habitait à New York dans les années 60, c'est là, au fin des années 50, 60, et puis ensuite, elle a émigré. Elle a émigré à Toronto pour une raison simple, c'est que ses enfants étaient appelés à la guerre du Vietnam, qu'elle était opposée aussi, et donc pour cette raison, elle a quitté les États-Unis, ce qui est quelque chose, une position politique très forte, parce que effectivement, elle a été taxée de non patriote, et c'était très difficile, sachant qu'en même temps, c'est une personne complètement convaincue de la question de la citoyenneté et de l'engagement dans la société.
Alors, c'est même une activiste.
C'est une activiste. Allez, voilà. Mais alors donc, elle habitait Toronto, et c'est à ce moment-là que Thierry Pacaud, qui fait la postface de cette édition, qui à ce moment-là était directeur de la revue Urbanisme, découvrant que je l'avais traduite, m'a dit, mais écoute, il faut absolument que tu ailles la voir. Elle est âgée, elle a 85 ans. Elle a très peu d'interviews. Tu risques d'avoir la porte ouverte parce que tu as traduit son livre. Donc, vas-y. Donc, on a pris contact. Et puis, je suis partie donc, à Toronto. C'était en 99, 2000. Et là, j'ai été très, très surprise et en même temps très, très émue parce que... Elle a vraiment... ouvert sa porte, et surtout, on a eu une conversation très à bâton rompu sur ce qu'elle pouvait dire aujourd'hui pour elle, c'était 50 ans après sa première édition. Tout son parcours, elle avait traversé le monde entier, elle avait des réactions dans tous les pays sur son livre. Et donc là, il y a eu un article qui est apparu dans Urbanisme, et où elle actualisait les choses. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle restait d'un optimisme, un très grand optimisme. Elle n'était pas, on pouvait dire que toutes ses idées, c'était de l'humanisme un peu, voilà, un peu idéaliste, et que finalement la globalisation, la dureté de parfois la violence des phénomènes qui accompagnent la métropolisation aujourd'hui viennent démentir certaines hypothèses ou certains espoirs qu'elle formule. Et en fait, elle m'a dit non, j'ai vraiment confiance parce que je vois des signes dans les générations actuelles, dans la façon dont les jeunes réagissent d'ailleurs à ce que leurs aînés, le cadre de vie qu'ils leur ont laissé. Je vois des signes comme quoi, je crois qu'on était vraiment dans la réalité, et je suis très optimiste. Donc c'était un message plutôt positif.
Mais je crois que son expérience canadienne a joué aussi, puisqu'elle dit qu'elle a trouvé au Canada quelque chose de différent de ce qu'il y avait aux États-Unis, c'est-à-dire une capacité à faire un retour d'expérience et abandonner des mauvaises pistes si s'avérait qu'elles n'étaient pas efficientes. Et c'est quand même bien au cœur de son attitude et sa démarche. Ça. C'est pas une théoricienne. Et c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans l'expérience et le pragmatisme. Et c'est peut-être à la fois ce qui fait la force de sa pensée et ce qui lui a rendu aussi difficile à faire passer ses idées dans les milieux autorisés, comme on dit.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, elle n'a pas manqué de susciter des critiques. Alors, elle m'a dit, quand on s'est rencontrés, qu'effectivement, son livre avait eu un grand retentissement populaire, mais que dans la sphère académique, elle avait quand même beaucoup choqué. Parce qu'elle n'y allait pas par quatre chemins pour critiquer les dogmes, les doctrines d'urbanisme bien instituées, bien instaurées. La doctrine des cités-jardins, qui avait donné des banlieues souvent peu satisfaisantes. Et puis la doctrine de l'habitat vertical, ce qu'elle appelle la cité-jardin verticale, c'est-à-dire la concentration dans des immeubles collectifs de populations ségrégées. Elle y allait pas de main morte pour critiquer le Corbusier, pour critiquer Howard, et du coup...
Ma morte est un euphémisme.
Oui, c'est un euphémisme. Et du coup, ça lui avait, au début, les urbanistes la voyaient d'un assez mauvais œil. Par la suite, donc moi, j'y suis allée, j'ai vu aux États-Unis dans les années 70, là, c'était tout à fait accepté, c'était une sorte de critique qui avait fait son chemin. Mais elle me disait, les architectes, finalement, m'ont mieux reçu que les urbanistes, parce que les architectes pâtissaient beaucoup à ce moment-là, au moment où elle écrivait, d'une espèce de diktat qui était imposé par la réglementation, par surtout ce qu'on appelle le zoning. Aux États-Unis, c'était extrêmement strict, c'est-à-dire le règlement qu'on trouve, nous, dans les plans d'occupation des sols, mais qui définit de façon très stricte l'occupation, les activités, les fonctions, et qui séparait de façon très, très systématique, les activités de bureaux, résidentiels, etc., de commerce. Et donc, elle disait, ce problème du zoning, qui est une espèce d'effet de fordisation de la production de la ville, façon de la voir de façon rationnelle et de l'organiser, il joue au détriment de la vie, quoi, parce que quand on range les choses comme ça, les gens passent la vie dans les transports, mais surtout, il n'y a plus de vie, puisque la moitié du temps, les emplacements où l'on vit sont inoccupés, puisqu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de frottement. Donc, elle me dit, les architectes ont finalement vécu toutes ces critiques comme de l'air frais. Ils étaient plutôt favorables, ils l'ont beaucoup apprécié dès le début.
Et en même temps, elle n'est pas universitaire, elle n'est pas urbaniste, elle n'est pas architecte, et elle est journaliste.
Oui.
Et c'est pour ces raisons aussi qu'elle a eu du mal à être reconnue comme un interlocuteur valable par, la nomenclature.
Le monde académique, oui.
À l'époque, il y avait quand même une production de pensée sur la ville qui était très académique et très formelle. Donc,
oui, tout à fait. C'était pas évident, mais en même temps, il y avait une réalité. Je dis, en 70, c'était vraiment cette espèce de valeur un peu transversale entre grand public et monde académique, puisqu'à l'université, voilà. Alors, il y avait des critiques, notamment avec Mumford, il y a une grande polémique. Bon, enfin, bon,
vous n'avez voilà. compris aussi Desjardins, etc.
Oui.
Bon, c'est des débats qui sont un petit peu datés aussi.
Oui,
enfin,
oui.
C'est une manière de dire que la personne est indissociable quand même du contenu de la pensée, oui. La personne et son engagement, quoi.
Voilà. Hein,
puisque c'est vraiment une pensée qui est forgée dans la lutte. Hein, qui est,
Dans la lutte, parce qu'elle est donc, elle habite Greenwich Village. C'est une journaliste, c'est une femme qui participe à plusieurs journaux et en particulier qui devient journaliste à l'Architectural Forum, qui est la grande revue d'architecture de l'époque. Et donc elle rencontre beaucoup de monde. Elle est très très impliquée dans tout ce qui se passe, la pensée de cette période qui est très très riche. Et à un moment donné, Random House, l'éditeur new-yorkais, lui commande un livre. Le livre dont on parle a fait l'objet d'une commande, en fait. Elle avait fait des articles sur la ville, sur cette espèce de synergie, d'énergie qui peut se dégager à partir de la forme de métissage urbain. Et donc, on lui commande ce livre qu'elle écrit assez rapidement et où elle va raconter un peu son expérience de la ville, mais alors donc à la fois comme une journaliste, comme une mère de famille, comme une femme d'architecte, parce que son mari est architecte, il sort de Columbia, et c'est donc à la fois le reflet d'un monde intellectuel, je dirais, mais anticonformiste. Voilà.
Alors ça nous amène quand même maintenant à présenter de manière un peu plus directe les contenus de ce livre qui a tellement fait référence. Et puis, il se pose après la question de savoir l'actualité de ce propos par rapport à son ancienneté. C'est un propos qu'à 50 ans. On n'a pas beaucoup de livres de référence qui nous paraissent être des outils pour l'action 50 ans après, surtout dans un autre contexte, puisqu'on va essayer quand même de voir un peu les parallèles avec les situations, nous, auxquelles on est confrontés, hein, dans le cas plus européen de l'évolution de la ville. Donc, sur le contenu de ce livre, on peut dire, en gros, il y a trois grands principes. C'est un livre à charge, d'abord. Mmh. C'est une critique fondamentale. Ensuite, c'est un plaidoyer pour une lecture de la ville habitable. Hein, son ouvrage commence par l'idée que je me fais de la grande ville. Bon, c'est, mmh. Et ensuite, il y a un mode opératoire, il y a des préconisations, il y a un peu une liste de catégories à partir desquelles on peut essayer de... on peut essayer d'intervenir sur la ville dans le sens de cette ville habitable. Donc, tu l'as un peu dit, mais ce plaidoyer à charge, il est à charge contre plusieurs choses, déjà. Bon, contre les modèles, on l'a dit, hein, puisqu'elle refuse de partir de modèles types, puisqu'elle part du réel et de l'expérience et de la ville vécue. Mais c'est aussi une critique de la planification urbaine.
Oui, enfin, surtout de la façon dont la planification urbaine était appliquée. On est à l'époque, à la fin des années 50, à New York. La ville est dirigée au niveau de l'urbanisme par un grand urbaniste qui s'appelle Moses, qui est un peu un organisateur et il met la ville en ordre, on pourrait dire, mais il met la ville en ordre aussi en faisant passer des infrastructures, en prévoyant des coupures à travers des quartiers entiers. Et comme par hasard, ces quartiers, mais ça, ce n'est pas qu'à New York, c'est partout aux États-Unis, ces quartiers, c'est les quartiers de ghetto, c'est les quartiers noirs, c'est les quartiers... qu'on aimerait bien voir déplacer ailleurs, ne plus voir. Et Jane Jacobs va en particulier se rebeller contre ça. Mais au-delà de la question du contre-projet, de la contre-proposition, il y a vraiment conscience du fait que l'urbanisme, quand il devient aussi technique, aussi technocratique, finalement fait très peu de cas de des relations sociales, des choses qui existent et qui sont vraiment fondamentales au niveau de la cohésion urbaine, de l'esprit d'initiative des gens, de leur capacité à investir, à réhabiliter, à améliorer leur quartier pour peu qu'on leur laisse un petit peu le droit de le faire. Et donc, finalement, elle va surtout interroger cette pratique qui est complètement, on dirait aujourd'hui, top-down, c'est-à-dire bon, une décision qui vient s'appliquer et qui a souvent des conséquences extrêmement brutales sur le terrain, pour lui opposer une pratique concertée. Et elle va en donner l'exemple à Greenwich Village, puisqu'elle va, composer une sorte d'association contre cette autoroute qui devait passer dans le quartier, mais aussi pour rénover le quartier. Et le rénover, elle a une très jolie expression, elle dit par la suite, on avait mis au point le principe des moineaux. On considérait qu'on était une collectivité de moineaux, que la question n'était pas de tirer des avantages commerciaux, en tout cas ce qu'elle appelle des avantages commerciaux, c'est-à-dire une rentabilité d'opérations de rénovation de notre quartier. Le vrai problème, c'était que chacun y retrouve une raison de vivre, une raison d'habiter là, et donc de trouver par tous les moyens des solutions pour rénover, pour densifier, pour faire ce qu'on appelle de l'infill, c'est-à-dire remplir les dents creuses, pour recycler des bâtiments qui existaient, mais de façon à ce qu'aucun des moineaux, dit-elle, ne soit lésé. C'était ça la règle. La finalité, c'était finalement que tout le monde s'y retrouve. Et comment faire pour mettre en place une méthode qui pouvait être opérationnelle, elle l'a prouvé, puisque Greenwich Village s'est largement rénové à ce moment-là, et par la suite gentrifié, bien sûr, encore plus, mais avec ce principe-là. C'est-à-dire un principe qui est non seulement, on dirait, de la participation, mais vraiment de l'implication des tenants du projet, c'est-à-dire au départ des habitants. Alors elle avait embarqué avec elle des tas de gens, il y avait Madame Roosevelt, il y avait tout un tas de personnalités, il y avait Mumford, mais en même temps, il y avait vraiment les gens du quartier, et ça a fini par faire du bruit et ça a fini par avoir de l'effet.
C'est-à-dire qu'il y a un véritable idéal civique quand même dans sa manière d'aborder la ville. Et si on se référencie à cette... Enfin, un peu plus tard, nous, on a eu ce qu'on appelait les luttes urbaines, hein, qui étaient des grands mouvements de mobilisation dans la ville. Ben, on a connu ça hein, dans la ville européenne, dans la ville française et la ville de Bordeaux, où il y avait à la fois une volonté d'essayer d'intervenir sur l'humanisation des banlieues. Hein, on était à la fin de la période des ZUP. Et sur le maintien sur place des populations... d'origine dans les quartiers qui étaient en voie de réhabilitation. Mais on voit bien que l'approche n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que nous, les luttes urbaines qu'on a pu connaître étaient extrêmement chargées idéologiquement, avec des lectures de la ville qui étaient vraiment des grands paradigmes d'interprétation politique, hein, de ce qu'était... La ville était la traduction d'un paradigme politique. Et c'est quand même tout à fait différent du type d'engagement qu'elle a pu avoir, quoi. Et là, il y a une. Enfin, c'est une confrontation qui ne s'est pas faite et qui semble se faire aujourd'hui avec peut-être une petite génération de décalage.
Oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très américain, enfin, dans sa façon d'aborder les choses. Elle dit que. Elle a extrêmement peur des idéologies, elle a extrêmement peur des doctrines, et que c'est pas du tout une doctrine qu'elle a voulu mettre en place, c'est plutôt une façon de faire, c'est plutôt tout d'un coup dire aux gens, mais voilà, vous avez finalement le pouvoir de dire votre opinion, et c'est pas parce qu'elle est contradictoire avec le pouvoir en place, qu'il soit local ou autre, que vous êtes des mauvais citoyens. C'est presque un devoir d'être critique et d'être et de chercher bien sûr des solutions alternatives. C'est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Enfin, c'est pas du tout simplement.
C'est pas seulement l'empathie pour une population qui subit une violence sociale. C'est une manière aussi de critiquer la ville comme quelque chose d'émollient et qui finalement déshumanise, provoque de l'apathie. Et elle parle d'affaiblissement du sens critique des citoyens. Oui. La ville zonée, la suburbia, la ville organisée par la planification américaine fait une ville finalement d'un troupeau un peu morne de gens qui pensent plus des zombies. Et ce qui est effectivement assez différent de la traduction qu'on a pu avoir, nous, à d'autres époques, même, je pense, ce qui se passe en Belgique ou autre, qui sont assez différents.
Oui, où il y a une interprétation politique beaucoup plus forte au départ.
Et du coup, qui finalement s'exprime pendant quelques années sur une génération, mais qui n'a pas vraiment, qui a pas vraiment été fondatrice d'une manière de réinvestir la ville.
Les idéologies et les interprétations idéologiques de la ville évoluent. Mmh. Hein, on passe du capitalisme, au capitalisme tardif, des théories de la production comme vraiment fondatrice des rapports dans la ville à des théories qui sont qui s'intéressent plus à la consommation et tout ça évolue, tandis que là on parle beaucoup plus de comportements humains, de comportements qui vont du voisinage à la capacité, dit Jane Jacobs, de dans une grande ville. Elle dit d'ailleurs, je ne parle que des grandes villes parce qu'elle peut pas, elle s'autorise pas à parler d'autres villes qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne vit pas. Dit dans une grande ville, ce qui est extraordinaire, c'est que on peut à la fois avoir un substrat de connaissances proches, des gens de la rue, du quartier, qui forment une espèce de communauté auquel on peut appartenir potentiellement. Et puis, on peut avoir des affinités électives avec des gens extrêmement particuliers. On peut trouver donc toutes sortes de profils. Il y a une diversité. Et la question de la diversité, à la fois des personnes, des itinéraires, des initiatives, ça va être au fondement de sa pensée. C'est-à-dire, finalement, la vie de la ville, c'est laisser la diversité s'exprimer. Et à partir de là, il y a à la fois des initiatives, bien sûr, au niveau économique, vous direz aujourd'hui l'économie créative, il y a à la fois des initiatives au niveau social, d'entraide potentielle, il y a une éducation qui se fait à travers le frottement, le passage, la vue des autres, de la différence, et puis, chose qui n'est pas du tout négligeable à l'époque, parce qu'on est dans une situation critique, les centres-villes sont presque stigmatisés par les classes moyennes qui partent très loin dans les banlieues pour se protéger des violences qui sévissent dans les centres-villes. On entend parler, ce qu'on entend un petit peu, dont on commence à entendre parler en France en ce moment, enfin depuis déjà pas mal d'années, mais de façon peut-être plus intense maintenant, c'est vraiment le quotidien. Et donc il y a une espèce de recul et des classes un peu éduquées vers la banlieue et vers la grande périphérie. Et là, c'est là qu'elle dit, mais ces cœurs de ville, même s'ils ont l'air un peu pourris, même s'ils ont l'air un peu extrêmement violents, c'est quelque part, on les a appauvris, on les a diminués en ségrégant les activités. Si on gardait un tout petit peu de frottement, d'hybridation, de mélange de fonctions, mais aussi de mélange de gens, de mélange d'âge dans ces quartiers, eh bien, la question de la sécurité ne se poserait pas comme elle se pose. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des endroits complètement désertés qui sont, la nuit par exemple, qui sont des quartiers de bureaux qui deviennent des endroits de criminalité ou autre chose. Bon, elle dit, il y a toute cette question des temporalités. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Elle dit, une rue, la rue, sa rue, c'est une rue qui vit quasiment 24 heures sur 24, où elle appelle ça le balai de la rue. Le matin, il y a des gens qui partent travailler, il y a des enfants, il y a d'autres qui arrivent pour travailler, il y a des gens qui viennent pour des... Il y a des tas d'activités qui se créent à partir de ce va-et-vient. Il y a des galeries, il y a des petits restaurants, il y a donc tout un tas d'activités qui sont créées du fait qu'il y a des temporalités multiples qui arrivent à se cohabiter dans un même espace. Et cette question de la diversité et de son pouvoir de créatif, c'est vraiment basé sur une question de temps. C'est vraiment le fait de dire, c'est un peu absurde, on construit des villes où, finalement, à travers le zonage, on utilise les choses qu'une partie du temps, et le reste du temps, elles sont mortes ou alors elles sont appropriées dans des conditions qui ne sont pas du tout satisfaisantes pour personne.
Donc dans son idée de ville habitable, cette question de la diversité est un peu différente de ce que nous on appelle la mixité. Oui. Un terme que tu sais que j'aime pas trop. Oui. Et je préfère justement ce terme de diversité parce qu'il s'appuie d'abord sur une diversité des fonctions urbaines avant d'être une diversité des catégories sociales. On a quelque chose de l'ordre du mélange, du savant dosage dans notre acception de la mixité. Et c'est là finalement, c'est de dire s'il est inhérent, c'est consubstantiel de la ville que de faire se confronter des choses diverses, des choses qui ne sont pas nécessairement compatibles, mais dont la coprésence et l'interaction créent de la dynamique sociale. Hein, c'est une pensée de la ville par la dynamique sociale. Et ce qui crée la dynamique sociale, ce n'est pas l'ordonnancement apaisé de la ville agencée, de la ville hiérarchisée, c'est plutôt l'acceptation du télescopage, de la confrontation, de c'est la ville comme un système de tension, finalement, dans le bon sens du terme.
Et en évolution. Enfin, une ville, qui n'est jamais finie, qui est tout le temps en train de se régénérer, de se recréer.
Ouais. Alors, en même temps, elle regarde de manière très précise un certain nombre de choses très concrètes. Et elle a toute une pensée sur la rue.
Oui, oui. Alors ça, ce qu'on lui a d'ailleurs un peu à l'époque, en France en tout cas, reproché en disant mais la rue, c'est vraiment une pensée un peu villageoise, c'est extrêmement nostalgique, Mais en fait, la rue, pour des Américains, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup moins présent que chez nous, où on a des centres qui regorgent de rues malgré tout, même si les banlieues en ont moins. Enfin, rue dans le sens de la diversité des fonctions. Et pour elle, c'est une sorte de symbole, la rue. C'est quelque chose où, justement, ce croisement se fait. Aujourd'hui, on dirait l'espace public, peut-être. On dirait plus largement en France, on parlerait d'espace public. Alors, pour nous, quand on parle de rue, il y a tout le décor. Il y a toute le côté un petit peu de pastiche, de retour à une espèce d'image. D'image d'Épinal qui est d'un bonheur,
se disant... La ville de Douaneau avec ses enfants qui jouent dans les flaques.
C'est ça. En fait, c'est pas vraiment... Non, la rue, pour elle, c'est ce lieu, qui n'a pas de valeur en soi, c'est-à-dire puisqu'il est public, donc il n'est pas monnayable, mais en même temps, c'est là où l'interaction peut se passer. Voilà. C'est assez simple. Hein, et puis, c'est les flux. C'est le fait que la ville, c'est un mouvement. C'est une série de flux qui se croisent continuellement et qui génèrent donc des possibilités de toutes sortes, de rencontres, d'activités, de loisirs aussi, parce que les flux, c'est quelque chose d'extrêmement attractif. La foule attire la foule, comme on le constate dans les rues piétonnières, par exemple, partout.
C'est une sollicitation permanente qui génère cette dynamique. Oui. Et elle dit quelque part, je ne me rappelle plus où, mais elle dit la ville est une mise à disposition. Oui. Hein, ce qui est une manière de dire que finalement, la ville, c'est un possible. Et c'est un possible dont les dynamiques sociales et les confrontations sociales et les contradictions sociales peuvent s'emparer de manière bénéfique. C'est quand même une pensée assez éloignée de la pensée planificatrice et de la pensée de la ville composée, qui est un héritage qui est pourtant assez... assez fort. Alors, par rapport à ça, par rapport à la rue, elle a un certain nombre de critères, à la fois d'analyse, de lecture, pourquoi il y a des rues qui marchent bien, des rues qui marchent pas bien, pourquoi certaines sont sûres et d'autres sont moins sûres. Et elle arrive finalement à faire un catalogue de préconisations sont à la fois des grilles d'interprétation des difficultés, des problèmes, des dysfonctionnements, mais aussi des schémas de réponse pour faire cette ville habitable.
Voilà. Alors, c'est une ville... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, il faut lire le livre aussi. Mais c'est une ville qui a quand même une certaine densité. On parle beaucoup parce que New York, il y a minimum 100 logements à l'hectare, même dans un quartier comme Greenwich Village, qui n'est pas très haut. Mais c'est vrai que la densité génère plus de flux. C'est une ville où il y a donc des activités de nature différente, des gens qui dorment, des gens qui travaillent, des gens qui étudient.
Elle préconise qu'il faut au moins deux fonctions primaires, deux fonctions basiques. Moins, c'est-à-dire par exemple habitat et commerce.
Voilà. Ou habitat et surtout activité.
Au moins deux pour que ça puisse...
Générer d'autres choses et surtout générer cette vie auquel on peut s'identifier. On appartient à une ville à partir du moment où on vit dans l'espace où on rencontre les gens. Voilà, on n'est pas juste consommateur.
C'est-à-dire qu'elle refuse d'analyser la ville par les fonctions, ce qui se faisait traditionnellement. Avant, on segmentait les fonctions pour l'analyse de la ville. Et là, c'est... La percolation des fonctions qui, elles, son regard.
Alors, c'est vrai qu'on va dire, et là, il y aura des critiques, notamment en France, parce que même quand elle n'était pas traduite, on l'a critiquée. Il y aura des critiques, justement, sur ce côté un peu recette. Parce qu'elle dit, par exemple, C'est une ville où il y a des gens qui habitent et qui travaillent. C'est une ville où il y a des yeux dans la rue. Les gens regardent ce qui se passe. Et donc, quand il vous arrive un problème de sécurité, il y a des gens qui peuvent réagir. Bon, ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, toujours ça ne va pas forcément de soi. Donc, elle va parler de cette question des yeux dans la rue comme un garant de la sécurité. Et elle va parler de la co-veillance, donc du fait que finalement chacun se sent un peu responsable de ce qui se passe dans la rue. Et après, toute cette pensée-là sur la co-veillance va être un peu instrumentalisée. Il va y avoir Oscar Newman en particulier, qui est un écrivain qui va écrire un livre qui s'appelle Defensible Space. Il va mettre vraiment en règle toutes les conditions physiques qu'il faut respecter pour qu'une rue soit sécure. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine de vie sociale que Jane Jacobs met à la base de
C'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle.
Pudiquement, oui. Oui.
Et la prévention situationnelle, mais c'est vrai qu'on est confronté à ça dans les projets d'urbanisme, où on soumet un projet aux autorités de police qui mesurent l'espacement entre des immeubles par rapport à des capacités de refuite ou la présence de toits-terrasses qui pourraient stocker des projectiles. Moi, j'étais confronté à ça. Mm-hmm. Et j'avoue que c'est une pensée sur la ville qui est un petit peu difficile à accepter et à mettre en œuvre. Mais c'est quand même un mauvais procès qu'on lui a fait, parce que ce qu'elle préconisait était plutôt de l'ordre de ce que d'autres ont appelé le « neighbor watching ». C'est-à-dire, je suis présent à l'espace commun, donc je sais ce qui s'y passe, et donc il y a un contrôle de fait par la présence des uns et des autres et par les regards croisés. Il y avait aussi la question de l'échelle qui l'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des blocs, ce qu'elle appelle des blocs, qu'on appellerait des barres,
des îlots.
Qui sont de petite taille, de manière à permettre des appropriations, à permettre des parcours qui soient...
Le choix,
Qui soient choisis.
Parce qu'il y a toujours cette idée que les individus... il faut essayer de travailler sur la marge de liberté des individus. C'est peut-être ce qu'offre la ville. C'est une forme de liberté, on dit toujours l'air de la ville rend libre. Y compris au niveau des parcours. On doit pouvoir passer par plusieurs chemins pour aller au même endroit. On doit pouvoir faire un peu son récit de la ville en même temps qu'on la vit. Chacun doit pouvoir finalement... faire son miel de toutes ces significations, de tous ces usages, de tous ces rencontres qu'on trouve dans la ville. Donc c'est une façon aussi de, non pas d'idéaliser, mais de révéler tout ce qu'offre un environnement, parce que derrière, il y a une épaisseur humaine, il y a une épaisseur de vie.
Oui. Comme une expérience.
Voilà.
C'est les situationnistes qui parlaient de ça
à peu près
à la même époque, la théorie de la dérive urbaine.
Tout à fait.
Et les situationnistes qui faisaient de l'urbanisme une catégorie policière.
Oui.
et qui justement, ils réagissaient par cette démarche à la fois onirique et subversive. Elle insiste aussi beaucoup sur la nécessité, quand on intervient sur un quartier, de garder de l'immeuble ancien. Alors, au premier degré, on pourrait penser qu'elle a, comme nous, un culte du patrimoine, une nostalgie des traces et du passé, mais c'est pas ça du tout.
Non, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. C'est que les immeubles anciens, c'est des immeubles pas chers.
Voilà. Et elle dit que ça permet justement à des jeunes de s'installer en ayant des loyers abordables, et puis à d'autres, à des entreprises plus installées, justement, d'arriver dans le quartier. Ça permet des complémentarités, ça permet des dynamiques. Et ça, c'est assez intéressant. C'est toujours cette idée du temps il faut laisser le temps au temps. Et donc, c'est vraiment l'anti-table rase, quoi. Ça, c'est sûr que...
Exactement.
Et l'anti-grosse opération, gros financement. Mm-hmm. Mais pour autant, c'est pas non plus, une espèce de timidité, parce qu'elle va beaucoup plus loin dans ce qu'on appellera aujourd'hui la gouvernance. Elle comprend bien que le quartier, c'est une chose, qu'on y vive, qu'on y dorme ou qu'on y fasse autre chose. Mais une grande ville, il y a des échelons. D'organisation qui sont nécessaires. Elle parle des districts où elle pense qu'il faut qu'il y ait une administration décentralisée.
Districts dans un quartier.
Grand quartier, oui, c'est quand même c'est 30 000 habitants. Hein, c'est,
ouais,
pour elle, c'est,
oui.
Voilà. Et elle parle donc de toute une hiérarchie de à la fois de mode de vie et d'organisation de la vie urbaine et De gouvernance, bien sûr. Alors elle parle surtout de l'administration, parce qu'on est moins dans des systèmes électifs stratifiés. On n'est pas dans une démocratie représentative aux États-Unis, enfin beaucoup moins. Et donc elle parle beaucoup de ce cadre qui est nécessaire. Elle s'intéresse énormément à cette question de l'organisation administrative de la ville.
Alors, pour résumer un petit peu ce qu'elle appelle les tactiques d'intervention, c'est-à-dire la manière de s'y prendre pour intervenir sur cette ville-là, finalement, si on liste rapidement, elle parle des moyens financiers, de l'aide au logement, elle parle de la maîtrise de l'automobile qui a une capacité à l'attrition de l'automobile qui désagrège, qui dévitalise les tissus urbains. Elle explique comment il ne faut pas subir les questions de forme et d'esthétique, mais que c'est les questions de confrontation qui jouent. Il faut intégrer les grands ensembles et trouver des échelles de gouvernance. Finalement, quand on lit ça, on a l'impression qu'on n'est pas très éloigné de notre propre doxa actuelle sur le renouvellement urbain, sur la régénération des centres, voire sur la ville durable. Alors, la question qui vient quand même quand on liste un peu ça, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'ouvrage de Jane Jacobs n'est pas le précurseur de ce qui, aujourd'hui, nous fait un petit peu le référentiel de la bonne ville vers laquelle on veut tendre, quoi. Est-ce que cette pensée a eu un impact opérationnel réel dans différentes cultures ou pays? Et est-ce que nous, on s'approprie ça, finalement, de manière opportune, au moment où ça peut devenir opérationnel chez nous ?
En termes opérationnels, oui. On peut dire qu'il y a eu toute une génération d'urban designers, d'architectes urbanistes qui se sont beaucoup inspirés. Moi, on bouge pas mal avec l'école d'architecture dans tous les continents, et à chaque fois qu'on parle de Jane Jacobs, il y a une espèce de tous les gens, voilà, de notre génération, mais aussi maintenant, parce qu'elle continue, disent, mais oui, justement, quand on a rénové ce quartier, on a essayé d'appliquer les principes de Jane Jacobs sur la diversité, sur la rue. J'ai entendu ça extrêmement souvent, et je l'ai vu, par exemple, à Melbourne, encore, il n'y a pas très longtemps, ou en Argentine, là aussi, on a reparlé sur le fait qu'effectivement, on pouvait se permettre de la grande densité, de la grande hauteur, mais il fallait absolument qu'il y ait au rez-de-chaussée des commerces, des activités, de la vie permanente. Et que cette chose-là, elle est vraiment très, très ancrée, très liée à la pensée de Jane Jacobs. À chaque fois, on nous dit, c'est Jane Jacobs qui nous a enseigné ça, et on y tient.
Et ce qui veut dire qu'elle a enseigné ça au niveau de la décision, des outils opérationnels.
Et qu'on l'a, c'est rentré. Enfin, les principes sont un peu rentrés dans les mœurs. Mais par contre, ce que je pense, c'est que c'est surtout une façon d'envisager la vie en ville. Parce que finalement, elle se met toujours du côté de celui qui vit. Elle est une citoyenne de l'expérience. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y avait encore un article là, dans le Courrier international la semaine dernière sur New York, où on disait que cette question-là de reconstituer des foyers un peu de vie marchables, de lieux qui sont d'ailleurs parfois réappropriés dans des endroits qui n'étaient plus, des friches, on dirait aujourd'hui. Mais le fait d'avoir pour la génération qu'on appelle la Y generation, c'est les 19-30 ans. Il y en a beaucoup ici parce que c'est. La volonté d'abord beaucoup moins de volonté de se déplacer en voiture, d'abord de possibilité parfois matérielle d'acquérir une voiture, mais aussi vraiment ce besoin d'avoir des contacts assez de proximité avec des gens différents ou pas. Et malgré donc là maintenant bien sûr les communications numériques extrêmement développées, avoir ce besoin de se regrouper, d'appartenir à un foyer de vie quelque part, et un foyer à échelle humaine. Et c'est assez paradoxal avec cette grande idée de la métropole, des réseaux.
C'est une critique de fait aussi de la suburbia américaine. C'est-à-dire que le foyer familial éloigné de la ville et la voiture comme seul vecteur d'échange est quelque chose qui est relativement remis en question culturellement par une génération, mais aussi pour des raisons économiques également.
Les deux
période où le logement pas cher va se trouver en ville, la ville walkable, c'est ça?
Oui, walkable, marchable. Oui.
Elle est effectivement beaucoup plus économique au quotidien. Et par ailleurs, les technologies permettent de toute manière le fonctionnement en réseau, la multi-connectivité, etc. Est-ce que nous, on voit apparaître ce genre de choses dans nos propres cultures et pratiques urbaines? Peut-être, oui. Peut-être, peut-être qu'il y a une génération qui va en colocation, qui préfère les centres-villes, qui... mais est-ce que c'est peut-être aussi une génération qui est de passage dans les centres-villes? Les centres-villes aujourd'hui s'établissent quand même de manière un peu différente de ce qu'on a pu connaître la génération précédente. L'impression qu'on a qui domine quand même, c'est que ces aspirations à la ville vivable telle qu'elle l'a décrit, elles sont un peu dans le langage commun. Elle revendiquait maintenant, elle fait partie des aspirations, je dirais presque du discours obligé. Mais il y a presque une novlangue, si j'ose dire, du vivre ensemble, de la mixité, de la participation. Mais la réalité n'est quand même pas tout à fait aussi proche de ça. On continue à faire des grandes opérations, on continue à faire des grands zonages, on fige un peu des sites par la patrimonialisation, le cloisonnement et l'étalement urbain continuent. Mm-hmm. Hein, donc bon, aujourd'hui, on n'est pas vraiment... on a à la fois un discours qui est largement puisé de cette réflexion-là, mais le passage à l'opérationnel... n'est qu'occasionnel ou expérimental, ou enfin, c'est un petit peu l'impression que ça donne.
Oui, oui et non, quoi. Oui, c'est non. Un peu paradoxal.
Entre les aspirations et les observations réelles.
Parce que malgré tout, on entend aujourd'hui partout et quotidiennement cette volonté des édiles de faire participer la population, de faire sortir des besoins réels, de répondre à des besoins réels à travers les interventions. Et il y a vraiment toute cette question, alors, qui se pose complètement différemment aux États-Unis et en France, parce que nous sommes dans un système à la fois centralisé, enfin, même si c'est décentralisé, mais qui reste quand même très pyramidal en termes de décision aux États-Unis, où on est dans dans des communautés, une forme de rapport de force permanent entre différentes communautés, et une démocratie donc plus participative par essence. C'est des grosses différences. Et puis parce que donc l'intervention publique est infiniment plus importante en France. Donc, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'on tourne autour de cette histoire. Comment faire pour introduire ce qu'on dit du... On a des anglicismes, du bottom-up, c'est-à-dire remonter des vrais besoins, des vraies aspirations, un vrai langage aussi... arrêter de rester toujours dans des modes, dans des sortes de... dans le star system architectural, par exemple. On sent bien que là, il y a un vrai débat sur ces questions-là, et qu'il n'est pas du tout tranché, que la question, elle est aussi qu'il y a toujours cette... cette espèce de miroir qui est dynamique par lui, enfin, l'effet de miroir qui est dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, les États-Unis... n'ont pas les mêmes institutions, n'ont pas la même histoire, le même fonctionnement. Et donc, ces questions-là de la participation, du bottom-up, ne se posent pas de la même manière. Mais en même temps, nous avons un État très présent, un secteur public très présent et très, très interventionniste dans toutes ces questions de l'environnement. En même temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, comme Asher l'a bien décrit, la question de la métropolisation, c'est-à-dire du fait qu'on vit dans des villes qui n'ont pas vraiment de limites, où il y a énormément de communication, on ne sait pas très bien à quel territoire on appartient, parce qu'on travaille quelque part. Voilà, des villes de flux, des villes de réseau. Et puis, des villes où il y a aussi des effets de décrochage et des effets de fracture sociale, d'inégalité très, très marquées. Là, on a l'impression qu'on est pris, malgré tout, même dans les villes européennes, avec toutes leurs traditions, avec toute leur organisation citoyenne, on est pris dans ce grand mouvement des villes globales, des villes mondiales, par tout un tas de manifestations. On constate qu'ils ne sont pas forcément physiques, les quartiers ne changent pas beaucoup, mais les fonctionnements changent. Et là, ça devient aussi intéressant de voir, de comparer les expériences et de voir les analogies.
Nous, quand on est tenté d'aller vers ces expériences-là, on pense toujours à nos vieux centres-villes, à cause de leur densité, etc. Et évidemment, on est toujours confronté à ça. On ne sait pas les faire revivre sans les gentrifier. Elle dit que c'est un faux problème. Elle le positionne autrement.
Là, justement, c'est très intéressant parce que quand je l'ai vu en 2000, moi-même, j'étais impliquée dans des opérations de rénovation et dans des petites villes, hein, et en particulier ici à Saintes, et où on se doutait bien, en rénovant le centre de Saintes, qui est magnifique, mais qui était très, très abandonné, on se doutait bien qu'il y allait y avoir, par ces rénovations des espaces publics, des équipements, de la biodame, etc., un effet de gentrification. Bon. Et on s'était beaucoup questionné sur comment faire, est-ce qu'il faut... comment faire pour anticiper ça? Alors, une des réponses, c'était de dire, et de faire, beaucoup de logements sociaux, de logements accessibles à des gens avec des moyens très, très limités, pour pondérer cet effet. Et puis, et ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Et effectivement, ça a eu un certain effet. Mais enfin, ça n'a pas eu un effet très, très long terme. Alors, donc, quand j'ai vu Jane Jacobs, je lui ai dit, mais oui, ces questions-là, de finalement, cette espèce de ville un peu très riche en termes culturels, mais obligatoirement un peu sélective, elle va de pair avec un phénomène de gentrification. Mais elle m'a dit, mais non, moi je pense que le problème, il n'est pas forcément justement de tout bâtir sur un héritage soi-disant reconnu et valorisé. Le problème, c'est de comprendre ce qui fait que ces quartiers du centre ancien qui nous pèsent tant sont vivants, sont actifs, d'ailleurs ils ne le sont pas toujours, et d'essayer, dans d'autres circonstances, que ce soit ailleurs, que ce soit en banlieue, que ce soit de comprendre comment ça peut marcher et de recréer les conditions, donc de s'instruire. Mmh. Au lieu de dire « tout le monde va aller là parce que c'est bien », de dire « regardons pourquoi ça marche bien et essayons de faire la même chose ailleurs ». Elle dit « à partir du moment où il y a une diversité d'offres, la question de la, rente foncière qui s'accumule sur un seul endroit va se diffuser. Voilà. Et c'est assez logique, en fait. C'est vrai. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que certains coins qui sont investis par des groupes et qui prennent une certaine valeur.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les lieux d'intensité sont plus importants que les lieux de centralité.
Exactement, peut-être.
Et l'idée peut être de créer des lieux d'intensité à des endroits où la centralité n'est pas forcément là, puis on connaît tous des communes où là, c'est pas le centre qui est le plus animé, et à travers toujours cette notion de tout ce qui va pouvoir créer de la dynamique sociale et une économie créative. Quoi. C'est vraiment ça qui est au cœur de la chose. Mais peut-être on va conclure,
oui,
on va arriver
on va
un
s'arrêter,
peu
à
discuter un peu. Finalement, elle a un appel à la civilisation urbaine. Quoi. C'est la ville comme un bien collectif. C'est vraiment ça l'idée. Ce n'est pas la ville comme une forme. Ce n'est pas la ville comme une structure, une morphologie, une composition. Elle arrive à même dire, peu importe à certains moments la forme, l'esthétique, les échelles, etc., si la confrontation permet cette dynamique sociale.
Enfin, elle attribue quand même aux architectes et aux urbanistes, enfin ceux qui modèlent l'espace, c'est un rôle très important. Parce qu'elle dit, quand même, ils sont, à travers ce langage-là qu'ils mettent en place, à travers les formes et les séquences et toute la diversité aussi qui peut s'exprimer spatialement, ils ont une énorme responsabilité.
Ils créent des possibles, mais pas des déterminismes. Parce qu'aussi bien, une structure urbaine qui a été pensée à un certain moment peut très bien vivre pendant quelques générations et puis s'inverser complètement. On a parlé de Grenoble ces derniers temps, la ville neuve à Grenoble en 68, elle était extrêmement bien vécue pendant une petite génération, et maintenant, aujourd'hui, c'est un endroit terriblement difficile. Or, la structure bâtie, elle a fonctionné un moment, mais on pourrait en dire autant ici du vieux Bordeaux, qui a été un quartier de très grande bourgeoisie possédante, puis des quartiers très populaires. Enfin, l'important, c'est que la structure soit porteuse de dynamique,
etc. Le reste, parce que c'est ça, le problème.
Donc, je crois que j'ai pris ça comme une citation. Plutôt que l'urbanisme de projet, elle pose l'urbanisme comme l'art de catalyser.
Et puis comme une démarche qui n'a pas de fin. Et que finalement, les moyens, c'est-à-dire la méthode, la façon de faire collective, ou en tout cas respectueuse des uns et des autres, est finalement beaucoup plus importante que l'objet. Voilà.
Parce qu'il n'a pas de fin.
Voilà. Donc on va s'arrêter, ça va être la fin.
Ben, merci.
Merci.